Il y a cet appel ce matin, on l'a entendu dans la présentation de Daniel, on l'a entendu dans les prières, on l'a entendu dans les chants, cet appel qui est sur le cœur du Père, cet appel à revenir à lui. Et Robert le rappelait dans la prière, cet appel s'adresse à quiconque, quiconque croit en lui et confesse ses péchés, à la certitude d'être réconcilié avec le Père. Donc voilà l'appel ce matin de Dieu qui a été rappelé plusieurs fois, et mon message sera simplement une synthèse de tout ce qui a été dit ce matin. Mais soyons attentifs à cet appel de notre Père. Dieu m'a montré ces derniers temps l'importance de confesser sa parole. Et comme on n'a pas toujours une Bible sur nous, l'importance d'apprendre par cœur des versets, de connaître des passages et de les réciter. Et parmi les passages de la Bible qu'on connaît par cœur, dans le top 3 vient souvent Jean 3,16, n'est-ce pas ? Car Dieu a tant aimé le monde. Il y a aussi peut-être 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas ? Le passage sur l'amour. Ce passage qu'on connaît très bien, bon, on ne l'applique pas, mais au moins on le connaît et on essaye, en tout cas, si on le connaît, c'est qu'il y a un espoir. Il y a un espoir de l'appliquer complètement. Mais dans ce top 3 ou ce top 10 des passages qu'on connaît, il n'y a pas forcément Tite 2 du verset 11 à 14, n'est-ce pas ? Est-ce que quelqu'un ici pourrait réciter Tite 2 du verset 11 à 14. Pas forcément, hein. Et pourtant, à mon sens, il concentre le message de l'Évangile et il résume parfaitement l'enjeu de notre vie sur la terre et ce dont on est appelé en tant qu'enfant de Dieu. Donc je vous propose de lire ensemble Tite 2, du verset 11 au verset 14. Vous l'avez ? Tite 2, versets 11 à 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous, pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un bon résumé de l'Évangile, n'est-ce pas ? On distingue dans ce passage 3 temps, le passé, le présent et le futur. Et je vous propose un aller-retour entre ces 3 temps pour comprendre ce que nous étions avant, ce que nous sommes appelés aujourd'hui et ce qui nous attend à l'avenir. Et on va s'intéresser plus particulièrement aux mots et à leur signification, à leur définition, parce qu'on est dans une culture de plus en plus antichrétienne et on essaie de bannir tout ce qui pourrait, de près ou de loin, s'apparenter à la foi. On essaye de bannir dans notre langage tout ce qui touche à la foi. Par exemple, le mot iniquité. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Alors, je ne sais pas si c'est un mot que vous utilisez tous les jours dans votre langage. On ne l'entend pas beaucoup hein, dans les infos ou à la radio. Et ce n'est pas forcément un mot qu'on emploie dans nos discussions avec nos amis ou avec nos collègues. Pourtant, Dieu nous a rachetés de toute iniquité. Alors, la racine du mot iniquité, la racine grecque, donc, ça signifie impiété. Bon, ça ne vous aide pas forcément. L'impiété, c'est encore un mot un peu désuet qu'on n'utilise pas forcément. L'impiété, c'est le contraire de la piété. La piété, c'est le fait de mener une vie juste, une vie droite, une vie qui honore Dieu. Donc, l'iniquité, c'est le fait de ne pas honorer Dieu. L'iniquité est aussi traduit en grec par le mot injustice, ou par le mot méchanceté, ou encore illégalité, tout ce qui est contraire à la loi, sous-entendu à la loi divine. Donc l'iniquité, c'est le fait d'agir, de se comporter à l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Alors il faut remonter à l'origine de l'humanité pour comprendre d'où vient cette iniquité. Alors là, vous êtes prêts pour un petit flashback? On va retourner dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé le premier homme, la première femme, il les a placés dans le jardin d'Éden afin qu'ils cultivent et qu'ils gardent le jardin. Ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Il leur a permis de manger tous les fruits, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sauf de ce fruit-là. Si vous en mangez, a-t-il dit, vous mourrez. Mais comme bien souvent, l'homme est plutôt attiré par ce qui est interdit, il a choisi de désobéir. La femme a d'abord été séduite, hein, le serpent qui était l'animal le plus tortueux, est venu trouver Ève et lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger de ce fruit-là? Alors Ève, bien sûr, il nous a dit que nous mourrions. Mais le serpent, mais pas du tout. Mais non, Dieu sait seulement que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez semblable à lui, pouvant choisir entre le bien et le mal. La femme a été séduite, elle a mangé de ce fruit, elle en a donné à l'homme. Et effectivement, leurs yeux se sont ouverts. Donc, tout est parti finalement d'un mensonge. Un mensonge du diable qui a semé la rébellion dans le cœur d'Adam et Ève. Et c'est ainsi que le péché est entré dans l'humanité. Et pour conséquence, la mort, bien sûr, et la souffrance. Dieu a dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses douloureuses. » Il a dit à l'homme, « C'est avec beaucoup de peine que tu travailleras la terre pour en tirer ta nourriture. » Et donc les conséquences, la mort, la souffrance, et ce qu'il y a de plus tragique, la séparation d'avec Dieu. Parce que Dieu est saint et il ne peut pas s'unir à quelque chose de souillé. Dieu est lumière et il ne peut pas s'unir aux ténèbres. Voilà l'origine du péché, c'est la désobéissance. Et derrière cette désobéissance, eh bien, si on y regarde de plus près, il y a l'orgueil, le fait de croire qu'on peut égaler Dieu. Pour apaiser sa colère, Dieu a institué une loi avec beaucoup de commandements, et notamment celui d'accomplir des sacrifices d'animaux et le sang versé des animaux innocents servait à calmer la colère de Dieu. Et on verra comment Dieu a pourvu à une solution pour retisser ce lien qui a été brisé à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, puisque les sacrifices d'animaux étaient une solution passagère. Il fallait à chaque fois réitérer ces sacrifices. Donc la racine du mot péché, ça signifie rater la cible. Ou encore manquer le but. Ça, c'est la racine du mot grec. Donc, quand nous péchons, eh bien, simplement, nous ratons la cible. Nous avons été conçus pour une chose. Je suis né pour te louer, comme on l'a chanté tout à l'heure. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour glorifier ton nom. Et à chaque fois que nous passons à côté de cet appel de Dieu, eh bien, nous ratons la cible. Nous péchons. Il y a cette expression qui dit « tomber dans le péché ». Oh, il est tombé dans le péché. J'aime pas trop cette expression parce que ça fait penser à quelqu'un, vous savez, qui se promène, qui se balade, et puis pouf, il y a un trou, hop, il est tombé dans le péché. Oh, c'est pas de sa faute, quoi. Il regardait ailleurs et ça lui arrivait comme ça. En réalité, à chaque fois que nous péchons, c'est que nous avons choisi de le faire. Alors certes, nous savons que le diable utilise la séduction, utilise le mensonge pour nous tromper, Mais chaque fois que nous péchons, nous faisons consciemment. Quand le péché s'installe dans nos vies, c'est que parfois il y a une porte ouverte. Il y a un compromis, il y a une mauvaise pensée. Une pensée, une petite pensée qu'on laisse s'installer. Et puis cette pensée grandit, cette pensée prend place. Et cette pensée mène souvent au péché. Pour donner une image, imaginez, on va rester, on parlait du serpent tout à l'heure. Alors imaginez, parmi nous, personne ne voudrait dormir en sachant que sous son lit, il y a un énorme serpent, n'est-ce pas? Imaginez, un énorme cobra, un python. Les pythons, c'est mortel, n'est-ce pas? Alors imaginez dormir en sachant que sous votre matelas, il y a un énorme python prêt à vous étrangler dans votre sommeil. Personne n'accepterait ça, bien sûr. Mais un jour, votre enfant ramène de l'école, je ne sais pas, sur le chemin, il a trouvé un petit verre, ce qu'il pense être un ver de terre. Mais en réalité, c'est un bébé serpent. C'est tout mignon. Vous savez, les enfants ramènent souvent des choses un peu incroyables. Alors, vous lui laissez, vous lui donnez une boîte pour qu'il le mette dedans. Parce qu'il est petit, il est inoffensif. C'est mignon. Alors, on le met dans la boîte, puis on prend soin de lui. Mais un jour, la boîte est restée ouverte. Et le serpent s'est échappé de cette boîte. Il est allé se cacher sous l'escalier, un endroit un peu où il y a beaucoup de désordre. Donc, un endroit un peu difficile à dénicher. Alors, on le cherche pour un temps, mais après, on oublie. Mais le serpent est bien là, sous l'escalier. Et de temps en temps, une souris passe, alors il en fait son repas, puis le serpent grandit. La nuit, il va même dans la cuisine pour manger la nourriture, le rôti resté sur la table. Alors vous, parents, vous pensez que ce sont les ados devenus de grands mangeurs, alors vous vous inquiétez pas trop. Mais le serpent se nourrit jusqu'au jour où il est devenu adulte. Et il est là, sous votre oreiller, prêt à vous dévorer. Mais c'était un petit ver de terre, c'était un petit python inoffensif. Le bébé python que tu fais entrer dans ta maison deviendra ce prédateur qui menacera ta vie. Moralité, petit python deviendra grand. Le petit péché, vous savez, le péché mignon, c'est petit. Le tout petit péché caché qu'on accepte et qu'on laisse s'installer, nous détruira un jour. Il n'y a pas de petit péché. Certains se disent, « Oh, moi, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué. » En réalité, le mal est une racine installée dans le cœur de chaque homme, et ça se manifeste de façon différente d'une personne à une autre. Donc le péché a amené la souffrance dans ce monde. Et bien souvent, on entend des gens qui, du reste, ne suivent pas Dieu, on entend des gens blâmer Dieu en disant qu'il est responsable de toutes les misères du monde. Ils ignorent qu'en réalité, c'est Satan qui a précipité le monde dans le chaos dans lequel le monde se trouve actuellement. Ils ignorent qu'à l'origine, Dieu a laissé un libre choix à l'homme entre choisir de suivre le bon chemin et choisir la perversion. On oublie que Dieu a laissé ce choix, ce libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Dieu ne peut pas s'unir à nous dans notre condition de pécheur. Donc l'homme est pécheur, l'homme est perdu. Et il est coupé de la présence de Dieu parce que Dieu est saint, Dieu est lumière, Dieu est vérité. Et aucune ombre de ténèbres ne peut cohabiter avec la lumière. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que par sa grâce, Dieu a prévu la solution pour régler définitivement le problème du péché. Donc la solution, c'est mon deuxième point. La solution que Dieu a prévue, eh bien, c'est sa grâce. Sa grâce infinie. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. la grâce de Dieu. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est juste à cause de sa grâce, enfin, grâce à sa grâce. Alors le mot grâce, on le connaît bien, contrairement au mot iniquité, on le connaît bien. Déjà le mot grâce à, c'est une conjonction qui est très utilisée dans la langue française, je suis là grâce à vous. Tomber dans un état de grâce, il y en a qui demandent la grâce présidentielle. Bon, je vous déconseille, si vous la demandez, c'est que vous avez certainement commis un acte répréhensible. Dans tous les cas, le mot grâce est quelque chose de très connu. Mais ce dont on parle ici, c'est la grâce de Dieu, la grâce infinie, comme on le chante parfois. Et dans cette vie, on ne pourra comprendre qu'en partie la grâce de Dieu. On ne peut pas vraiment prendre la mesure de l'immensité de cette grâce. Il nous faudra l'éternité pour en comprendre l'étendue. Alors le mot grâce signifie donc en grec charis, ça signifie bonté, faveur, miséricorde de Dieu. C'est proche du mot kara qui lui signifie joie, plaisir. En d'autres termes, Dieu prend plaisir à nous accorder sa faveur, à nous accorder sa miséricorde. Le christianisme, c'est la seule religion qui parle de grâce. C'est la seule religion de la grâce, le christianisme. Vous prenez toutes les autres, il n'y a pas la grâce. Toutes les autres sont fondées sur le principe de la compensation. La compensation ou le deal. C'est-à-dire, tu me donnes ça si je fais ça. Donc ça, c'est la compensation. Faire quelque chose pour obtenir la faveur de Dieu. Elle repose donc sur le mérite de l'homme. Toutes les religions reposent sur le mérite de l'homme. Prenez l'islam, par exemple. Alors, tout musulman pense qu'au jugement dernier, Dieu aura une balance et il pèsera les actes bons et les actes mauvais. Et de cette balance sortira le verdict. C'est pour ça que le musulman n'a pas l'assurance de son salut. Et ils disent souvent « Inch'Allah », c'est-à-dire « si Dieu veut, il me sauvera ». Le musulman n'a pas l'assurance du salut. Mais il pense qu'en faisant des bonnes actions, il pourra gagner la faveur de Dieu. C'est pour ça que certains décident de mourir en martyr, en massacrant par exemple des chrétiens, parce qu'ils pensent comme ça qu'ils hériteront plus facilement du royaume de Dieu. Prenez l'animisme aussi, une religion très répandue en Afrique, avec notamment cette idée que tout possède une âme, tout est esprit, l'eau, la terre, le feu, le ciel. Et donc dans la religion animiste, on fait des sacrifices pour des offrandes, donc pour calmer les dieux. Et parfois on fait des sacrifices humains pour avoir la faveur des dieux. Le bouddhisme, l'hindouisme, il faut atteindre une certaine sagesse pour enfin accéder au nirvana, le nirvana qui est en quelque sorte le paradis, et être libéré des chaînes de la réincarnation. Alors quand on devient moine, c'est le pompon, vous voyez. Tout en bas de l'échelle, il y a les intouchables. En Inde, ils sont très répandus. Les intouchables, c'est ceux qui sont tout en bas, ce sont les pauvres, les chiffonniers. Et ceux-là sont dans des situations terribles. Et ces intouchables, en réalité, on ne les regarde même pas parce qu'on se dit, en tout cas dans la culture indienne, on se dit que s'ils sont dans cet état-là, c'est que dans une autre vie, ils ont été des criminels. Donc en fait, ce n'est que justice rendue. Et en réalité, toutes ces religions poussent l'homme à accomplir des actions pour atteindre la faveur de Dieu. Et même parfois, frères et sœurs, dans le protestantisme, même dans la foi évangélique, lorsqu'on se met à pratiquer des œuvres pour avoir la faveur de Dieu, on retombe dans ce principe de compensation, de deal avec Dieu. Si je fais ça, tu vas me bénir. Et on entend parfois dans certains courants charismatiques, par exemple, faites ceci et vous serez bénis. Donnez plus d'argent et vous serez guéri. C'est un étrange discours. La grâce de Dieu, elle est gratuite. La foi chrétienne, donc, est la seule, la foi en Christ, repose sur le principe de la substitution, contrairement aux autres religions. La substitution, c'est-à-dire que nous étions condamnés, nous étions perdus, mais au lieu de finir en enfer, Dieu a envoyé Jésus pour mourir à notre place. C'est la substitution. C'est le fait de mettre quelqu'un ou quelque chose à la place d'un autre. Nous méritions la mort, eh bien Christ s'est substitué à nous pour nous donner la vie, pour nous racheter. La substitution, c'est la grâce. La grâce de Dieu, elle ne demande rien à l'homme pour le sauver, comme font les autres religions ou la loi. Elle donne sans rien demander en échange. Et qu'est-ce qu'elle donne? Eh bien, elle donne le salut éternel, le salut pour tous, enfin pour tous ceux qui veulent bien l'accepter, parce que c'est un cadeau. Mais encore faut-il l'accepter, ce cadeau. Jamais il ne pourra exister un terrain d'entente entre le péché et la grâce, car ils sont entièrement opposés l'un à l'autre. La grâce n'améliore pas le pécheur, elle le sauve. Le péché sépare l'homme de Dieu, la grâce l'amène à Dieu. Le péché asservit l'homme à Satan, la grâce libère de cet esclavage. Le péché produit la mort, la grâce donne la vie éternelle. Le péché conduit l'homme au jugement, la grâce lui apporte la justice. Le péché a pour conséquence la condamnation, la grâce ôte cette dernière pour toujours. Et tout ceci a été rendu possible uniquement par le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est, comme le rappelle ce passage de Tite, la source de salut pour tous les hommes. La source de salut pour tous les hommes. Et pour commenter ce passage, j'aimerais illustrer mon propos avec Jean 3,16, que vous connaissez. Alors là, j'aimerais quatre personnes volontaires pour faire une petite illustration de ce passage. Quatre personnes. Y a-t-il quatre personnes volontaires parmi nous? Ça ne sera pas très méchant, vous verrez, ça sera très facile. Hein? Allez, quatre personnes. Ah oui, super. Trois, allez, peut-être encore une femme pour la parité, comme ça on n'aura pas de problème. Allez, super, non, mais maintenant il faut se méfier. Allez, mettez-vous ici, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a, à la base de tout, il y a Dieu. Bon, t'as le bourreau là, enfin c'est pas facile à tenir. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde, ça nous rappelle que Dieu est à l'origine de tout. Il a aimé le monde. Et certains savent que je suis allé plusieurs fois au Sénégal, à Dakar, pour travailler auprès des enfants des rues, qui sont donc des enfants musulmans, parce que ce pays est musulman. Et la plupart de nos enseignements portent justement sur l'amour de Dieu, pour convaincre ces enfants qui ont baigné dans une culture musulmane et qui ont la conviction que Dieu siège sur son trône, que Dieu est méchant, et que Dieu envoie ses misères sur le monde simplement pour corriger l'homme de ses mauvaises actions. Et nous passons donc avec ces enfants-là la majeure partie de nos enseignements bibliques à dire, à redire, Dieu vous aime, car Dieu a tant aimé. Il y a à la base de la création du monde, de l'humanité, l'amour de Dieu. Et il faut s'en convaincre. Dieu n'est pas celui qui est simplement qui se tient sur son trône de justicier, de juge. Il est celui qui agit simplement par amour. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Nicaise, tu joueras le rôle du monde. Dieu a tant aimé. Le monde qui au départ était en communion avec Dieu, mais le monde qui a choisi de suivre sa propre voie et de se perdre, le monde qui a choisi finalement de s'émanciper de la présence de Dieu pour suivre ses mauvaises voies. Mais pourtant, Dieu a quand même aimé le monde. Le monde a choisi les choses mondaines. Le monde a choisi la perversité. Et si vous voulez, il y a un abîme entre Dieu et le monde. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu est lumière, justice, vérité. Le monde a choisi le mensonge. Le monde a choisi de suivre l'ennemi. Il y a un abîme infranchissable entre Dieu et le monde. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus. Et son fils Jésus, bon ben... On va prendre Sylvie. Sylvie, tu joues le... Alors, ça, c'est un privilège que de jouer Jésus. Hein. Il faut avoir les épaules larges. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. Jésus qui... Eh bien, qui était à la droite, qui a toujours siégé à la droite de Dieu le Père. Et Dieu a envoyé la prunelle de ses yeux. Ce qui était... le plus cher à ses yeux pour sauver le monde qui était perdu. Et Jésus, qui n'a pas péché, était le seul qui pouvait justement réconcilier l'humanité avec Dieu. Et quand Jésus s'est présenté devant cette femme adultère, cette femme pécheresse, eh bien, des hommes l'ont amené au pied de Jésus en disant « Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. » Et Jésus a eu cette parole que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et vous savez que tout le monde est parti au fur et à mesure. Il n'est resté que Jésus et cette femme. Parce que Jésus était le seul à pouvoir jeter cette pierre parce qu'il était sans péché. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a libéré. Il a dit « Va, mais désormais ne pêche plus ». Parce que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. Il est venu pour faire cette union, ce trait d'union entre Dieu et le monde par son sacrifice. Jésus est venu sauver l'humanité. Et vous savez, entre Jésus-Christ, il y a un petit trait qu'on appelle un trait d'union. C'est un petit signe graphique. Jésus, le trait d'union. Parce qu'en réalité, on pense que Christ... C'est un prénom, ou c'est un deuxième prénom. Christ, ça signifie, c'est le Messie, celui qui vient sauver. Et en réalité, Jésus, il y en avait des tas hein, dans la culture hébraïque, dans la culture juive. Jésus, il y en avait des milliers autant de Jésus. Mais il s'agit de Jésus, trait d'union, Christ. Jésus, celui, le seul qui vient sauver l'humanité. Le seul qui vient faire ce trait d'union entre Dieu et l'humanité, Jésus, Christ, Jésus le Christ. Et vous savez, la définition du trait d'union, j'ai regardé dans le Larousse cette semaine, le trait d'union, c'est un petit signe qui vient faire, qui vient concilier deux choses, qui vient réconcilier deux choses. Jésus-Christ est celui qui a opéré cette réconciliation entre Dieu et le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque... Alors vous allez me dire... quiconque. Vous allez me dire, c'est la même chose que le monde. Bien, le monde, c'est global. Mais ce quiconque nous rappelle que Dieu, il est venu chercher chacun. Il est venu chercher la brebis égarée. Et ça a été rappelé ce matin par Daniel. Jésus, il a laissé... les 99 au pâturage pour chercher la brebis, celle qui était perdue, celle qui était égarée. Afin que quiconque c'est moi, quiconque c'est toi, c'est chacun d'entre nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il soit réconcilié avec Dieu le Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'œuvre de Jésus à la croix, si nous l'acceptons. C'est ça la grâce. Mais la grâce, comme je le disais tout à l'heure, c'est un cadeau. Encore faut-il l'accepter. Et il y a cet appel ce matin, cet appel de Dieu, de Jésus. Est-ce qu'on va rester indifférent? Est-ce qu'on va rester indifférent devant Jean 3,16, devant ce sacrifice de Jésus qui est venu faire cette œuvre de réconciliation? Est-ce qu'on va accepter ce sacrifice, ce Jésus qui a tout, qui a donné sa vie, qui s'est fait péché à notre place? Est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on reste indifférent? Merci, vous pouvez regagner vos places. Très bons acteurs, hein, super. Jésus a tant aimé le monde. Dieu a manifesté sa grâce Si on reprend notre passage de Tite 2, il a manifesté. C'est-à-dire que le mot manifester, c'est montrer, c'est mettre à la lumière. Dieu a mis en lumière sa grâce par la personne de Jésus-Christ. Elle nous enseigne, parce que cette grâce nous enseigne aujourd'hui, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est le contraire du mot piété. Hein. La piété, c'est la révérence envers Dieu. L'impiété, c'est le manque de révérence envers Dieu. Donc, elle nous enseigne à marcher dans la piété. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Les convoitises mondaines. Bon, généralement, l'impiété et les convoitises mondaines, ça va ensemble. Hein. Généralement, quand on manque de révérence envers Dieu, on s'intéresse aux convoitises mondaines. C'est quoi les convoitises mondaines? Ben, ça peut être construire une belle carrière, gagner beaucoup d'argent, avoir une belle maison ou posséder la plus belle des voitures, ou encore vouloir à tout prix posséder les derniers produits high-tech du moment. Mais tout ça, ce n'est pas mauvais en soi, hein, comprenons-nous bien. Ce n'est pas mauvais, posséder toutes ces choses. Mais après quoi courons-nous dans ce bas monde? Dieu permet que nous possédions toutes ces choses, mais quelle est la motivation qui nous anime? Est-ce que c'est l'esprit du monde, donc l'esprit de Babylone, qui nous pousse à posséder tout cela, ou est-ce que c'est la vision du royaume? Alors pour vous donner un exemple, on peut vouloir posséder une magnifique maison, peut-être un manoir avec piscine sur plusieurs hectares et une petite forêt donnant sur un étang. Vous voyez le truc un peu, la carte postale. On peut vouloir posséder cela. Mais quand on creuse, quelle est notre motivation? On peut désirer posséder une belle maison pour vouloir festoyer et vouloir s'adonner aux plaisirs mondains. Mais on peut aussi posséder cette même maison pour en faire un centre de restauration, pour les écorchés de la vie ou pour accueillir les chrétiens en retraite spirituelle. C'est la même maison, mais ce sont deux visions différentes. La vision du monde et la vision du royaume. Alors, qu'est-ce qui nous anime dans ce bas monde? La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. À vivre dans le siècle présent. Et il ne faut jamais perdre à l'esprit que nous sommes simplement des passagers sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et une ambassade, elle est dans un pays étranger juste pour représenter les intérêts du pays qui l'envoie, n'est-ce pas? Donc, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Dieu pourrait nous ôter la vie juste après notre conversion. Ce serait tellement plus simple. Plus de combats, plus de souffrances. Il pourrait même nous noyer dans les eaux du baptême. Mais s'il ne le fait pas, c'est bien parce qu'on a une mission à accomplir, c'est qu'on a un travail à faire sur cette terre. Nous sommes appelés à représenter la lumière dans ce monde des ténèbres et représenter les intérêts de celui qui nous envoie. Notre mission, c'est d'arracher ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener dans la lumière. Voilà notre mission en tant qu'ambassadeur de Christ. Donc, traversons le siècle présent avec sagesse, comme il dit dans le passage, sagesse, justice et piété. Ces trois mots résument le caractère de Dieu, sagesse, justice et piété. En attendant, comme il est dit au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En attendant la bienheureuse espérance. Et ça, c'est ce qui nous attend dans le futur. Qu'attendons-nous réellement dans la vie? Des fois, j'entends des choses étonnantes. Je veux bien que Jésus revienne, mais avant, j'aimerais bien quand même me marier. Ça vous fait rire? On entend ce genre de choses. Je veux bien que Jésus revienne, mais j'aimerais tellement avant avoir des enfants. Ou j'aimerais tellement commencer à travailler, parce que je suis passionné par l'activité, ça c'est les étudiants qui disent ça, je suis tellement passionné par ce que je vais faire plus tard que j'aimerais, juste avant que Jésus revienne, commencer à travailler pour voir ce que ça fait. Mais toutes les richesses que ce monde nous promet sont dérisoires comparées à ce que Dieu a à nous offrir. Et parfois on est comme aveuglé, on est comme attiré par les choses de ce monde. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Est-ce que nous y aspirons? Est-ce qu'on vit dans l'attente du retour de Christ? Je pense que réellement, si nous faisions du retour de Christ notre attente première, mais nos vies prendraient vraiment de la hauteur et prendraient certainement une autre tournure. Hein. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. C'est vrai, on confesse Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, mais il faut reconnaître que bien souvent, on retourne dans nos anciens travers, n'est-ce pas? On agit comme si on vivait dans notre ancien état. Jésus nous invite à boire à sa source, et trop souvent, on va boire dans des puits qui ne sont pas les siens, et qui ne désaltèrent pas, et qui en plus amènent une certaine amertume. J'aimerais éclaircir un point ce matin avec vous. La conversion, c'est un changement de direction. C'est le moment où on se détourne du péché et on laisse le péché derrière nous pour nous orienter vers les œuvres que Dieu a prévues pour nous, n'est-ce pas? C'est ça la conversion. Mais bien souvent, les tentations demeurent. Et parfois, il arrive que nous chutions. Et Paul décrit très bien cette tension dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains 7, au verset 18. Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Il y a deux natures qui cohabitent en nous. L'ancien moi, charnel, vendu au péché, et le nouvel être intérieur, renouvelé et tourné vers le Seigneur. Et parfois, c'est cette cohabitation qui pose problème en nous, n'est-ce pas? Cette lutte entre le bien et le mal est parfois féroce. Et chaque fois qu'on se confie dans la chair, eh bien, on retombe dans nos anciens travers. On n'a plus rien à attendre de la chair. D'ailleurs, le moi intérieur a été crucifié à la croix avec Christ. J'ai à cœur de dire ce matin... si tu retombes toujours dans les mêmes travers, il n'y a que Jésus qui puisse te délivrer. Tu te dis, c'est pas la peine. Je suis toujours en train de commettre ce péché. Tu n'oses même plus t'adresser à Dieu tellement tu es honteux. Et j'ai envie de dire ce matin, la Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le juste tombera 7 fois, mais Dieu l'en délivre 7 fois. 7, c'est le chiffre de l'infini. C'est à chaque fois que vous allez tomber, si vous vous repentez, sincèrement, si vous redemandez pardon, sincèrement, Dieu vous relèvera. Mais n'utilisons pas la grâce pour rester dans nos mauvaises voies, quoi. N'utilisons pas la grâce pour rester en arrière. Alors le deuxième point, la grâce de Dieu a réglé le problème du péché. Et la conséquence, c'est qu'une fois libéré, et ça sera mon troisième point, une fois libéré de l'esclavage, nous pouvons vivre pour Dieu et accomplir ses œuvres. Donc troisième point, libéré pour servir. Nous formons un peuple, verset 14, je suis toujours dans deux titres, hein, vous l'aurez remarqué. Verset 14, Dieu s'est formé un peuple qui lui appartienne. Et ça nous rappelle que nous vivons désormais pour Dieu et non plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu. Et Dieu nous a purifiés par le sang de Jésus. Et il nous a rendus zélés pour accomplir les bonnes œuvres. Nous sommes désormais zélés pour accomplir les bonnes œuvres. Un autre passage dans 2 Éphésiens 20 dit que nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2:20, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres, les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. C'est un peu en miroir de ce passage-là. Donc l'enjeu, c'est de connaître les œuvres que Dieu a préparées, a prévues pour nous. Et on entend souvent dire « je cherche l'appel de Dieu ». Je cherche l'appel de Dieu, vous entendez souvent ça ? Je cherche l'appel de Dieu. Mais je me suis toujours demandé, ceux qui cherchent toute leur vie l'appel de Dieu, est-ce que ce n'est pas pour creuser un trou et puis pour s'enterrer dedans ? Quand on cherche l'appel, c'est un jeu de mots pour ceux qui comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, vous laissez. Mais de façon plus sérieuse, nous avons été graciés. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes les porteurs de cette grâce. Partout où nous allons, non seulement nous baignons dans cette grâce, mais nous la communiquons. Nous sommes appelés à être ces porteurs de grâce. Nous sommes aussi appelés à être ces témoins. Ah oui, mais le témoignage, ce n'est pas pour moi. Non, mais d'autres, mais moi je ne suis pas appelé à témoigner. Eh bien, c'est une erreur. Nous sommes tous appelés à être ces témoins. Alors, témoigner, parfois, on n'ose pas parce qu'on croit que c'est difficile. Mais si on applique la chronologie de ce passage, c'est-à-dire avant, présent et futur, passé, présent, futur, si on applique cette chronologie, ça devient simple. Voilà ce que j'étais avant, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, voilà ce que Dieu fait, et voilà mon espérance future, la vie éternelle. Si on applique finalement ça, c'est très simple. En 3 minutes, on peut témoigner. Et enfin, pour ceux qui ne cherchent pas l'appel de Dieu, parce que peut-être qu'ils ont trouvé une pioche ou autre chose, eh bien, peut-être pour ceux qui recherchent un ministère, je vous rappelle que le ministère, ça signifie service. Hein. Pour ceux qui cherchent un ministère, eh bien, Dieu nous a donné le plus grand des ministères. Alors, ce n'est pas l'intérieur, ce n'est pas les affaires étrangères, c'est le ministère de la réconciliation, le plus grand, le plus beau des ministères. Une fois réconciliés, nous sommes appelés à être ce trait d'union entre les hommes et Dieu. Déjà, ce trait d'union réconciliant les hommes entre eux, mais réconciliant les hommes avec Dieu. Et nous avons, on va faire la lecture du ministère de la réconciliation. On le trouve dans 2 Corinthiens 5, 18. Alors, on connaît 2 Corinthiens 5, 17. Vous voyez de quoi ça parle ? 2 Corinthiens 5, 17. On connaît bien ? Si quelqu'un est en Christ, on connaît ça, hein ? Ça fait partie du top 5 des versets les plus récités par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais là, ce qui nous intéresse, et souvent on ne cite pas suffisamment la suite du verset, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà ce dont on est appelé à faire, être des porteurs de cette grâce et de cette réconciliation. Alors en conclusion, on peut dire que la doctrine du salut présentée par Paul à Tite nous invite à vivre une vie sainte, dans l'attente de la venue de Christ. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, nous le savons. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais forcément quand nous sommes sauvés, les œuvres suivent. Et nos œuvres découlent de ce salut. C'est parce que nous sommes sauvés que nos dispositions changent, que nos actions changent et que nous sommes orientés vers les autres. Et pour finir, si parmi nous, il y a des personnes qui sont accusées peut-être dans leur conscience, elles n'osent même plus lever les yeux vers Dieu à cause de leur péché qui les rend captifs, eh bien, il y a un espoir, il y a une espérance, il y a cet appel ce matin de s'abandonner complètement à lui. La grâce de Dieu est suffisante pour toi. La grâce de Dieu est suffisante pour accueillir le plus grand des pécheurs. Quel que soit ce qui te pèse sur la conscience, ne repars pas ce matin sans t'être réconcilié avec Dieu. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas de quoi nos lendemains sont faits. On peut perdre la vie en sortant d'ici. Ne perdons pas l'occasion de nous réconcilier ce matin avec Dieu. Soyez réconciliés avec Christ. Je vais finir par la prière. C'est par la grâce que nous venons, comme on l'a chanté tout à l'heure, c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non pas par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous n'avons aucun mérite, nous n'avons rien. Aucun mérite. Il n'y a rien de bon en nous, en tout cas dans la chair. Mais Seigneur, nous savons que par ton sacrifice, Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu le Père. Et tu fais vivre en nous cette espérance de la vie éternelle. Et il y a désormais maintenant cette nature en nous, cet être intérieur renouvelé par toi, Seigneur, qui aspire après toi, qui aspire après tes œuvres. Et qui aspire à ton retour. Alors ce matin, je veux te présenter mes frères et sœurs ici. Merci pour la grâce que tu accomplis dans leur vie. Et je veux te présenter aussi ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui s'assient en périphérie de cette grâce, ceux qui se placent là, et peut-être qu'ils observent la grâce dont vivent les autres, mais eux-mêmes ne sont pas rentrés dans ce plan de salut. Je te les remets ce matin, Seigneur. Et ma prière, c'est qu'ils puissent crier à toi, même s'ils sont complètement découragés ou s'ils se débattent dans leur péché. Seigneur, toi tu appelles, tu es ce bon berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée, celle qui est perdue. Seigneur, tu appelles ce matin. Tu appelles, tu dis « Suis-moi, abandonne ta vie et suis-moi ». Voici le chemin de vie que je te présente. Abandonne ce chemin de mort et choisis la vie. Si c'est le cas ce matin, si tu es dans cette situation-là, élève ta voix vers Dieu, élève ton cœur. Et si tu n'as plus la force de crier, Dieu entend le cri des cœurs et il y répond. Mais adresse-toi à lui, fais cette démarche, fais ce pas. Le pas de foi, ce n'est pas un pas dans l'inconnu, parce que nous savons que... Nous obtiendrons cette espérance du salut éternel. Le pas de foi, c'est un saut dans les promesses divines. Abandonne-toi à lui ce matin et il te conduira. Dans ton nom, Jésus. Amen.